418-971-1021, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous en informer. Vous êtes nos yeux, nos oreilles, vous avez des choses à nous dire, des commentaires à passer à Pascal, c'est par texto 418-971-1021, 418-971-1021.
Si vous avez des plaintes à faire envers Marceau, c'est aussi possible au
418-971-1021. Oh si! Qu'est-ce qui se passe au procès de Gilbert Rozon?
Hey, je suis ça avec un engouement certain. Tu sais, la semaine passée, on avait Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences, pour nous parler du narcissisme puis un peu ce genre de comportement-là qu'on peut voir du côté de Rozon, puis dans d'autres acteurs de l'actualité. C'est le procès civil en ce moment de Gilbert Rozon. Il est opposé à 9 femmes. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'au deuxième jour de contre-interrogatoire, Gilbert Rozon, il est exaspéré, il est écœuré, je vais le dire en bon québécois, tellement que la juge Chantal Tremblay a dû le ramener à l'ordre à plusieurs reprises. Il continue avec son genre de parage théâtral au procès. Là, vous dites, ouais, t'es pas très neutre dans ce que tu livres, Pascal, mais c'est exactement ce qui est évoqué dans les articles de presse. Ce qu'on dit, c'est que le fondateur de Juste pour rire, il est tanné, il est cinglant, il fait un genre de spectacle quand il doit se défendre contre 9 femmes qui lui réclament 14 millions de dollars pour des agressions sexuelles. Et ce qu'on voit, normalement, beaucoup aux États-Unis, peu ici, assez en Europe, c'est un genre de manifestation aussi face à la personne qui est jugée, à l'extérieur du palais de justice. Je vous explique, encore ce matin, tu avais des dizaines et des dizaines de personnes qui faisaient une manifestation pour déplorer l'attitude de Gilbert Rozon puis comment le procès se passe actuellement. Je vous rappelle qu'il a reconnu avoir trop aimé de femmes, mais qu'il l'avait toujours fait avec consentement par rapport à ces femmes-là. Il a plaidé coupable aussi à une agression sexuelle en 98. Ça aussi, c'est dans son pedigree. Et en ce moment, ben, ça se déroule toujours, ce procès-là, pour Gilbert Rozon.
Ben, ça lui permet aussi de se positionner en victime. Ça m'achale un peu. Tu sais, quand il s'est fait attaquer, il s'est fait prendre à la gorge, s'est présenté en victime, il a l'impression que toutes les femmes qui se plaignent de lui, de ses comportements qui étaient totalement inappropriés, agression sexuelle aussi dans plusieurs cas, il a l'impression que ces femmes-là, c'est une invention. Je trouve ça... j'espère juste que ce sera pas pris en considération par le juge. Tu sais, il va devoir y avoir certains montants qui vont être octroyés aux victimes ou aux présumées victimes, selon ce que le juge en penser, mais le fait que lui soit une victime dans patente, excusez-moi, ça m'agace un peu.
Puis là, on a vraiment 9 femmes qui demandent le 14 millions de dollars, mais c'est ajouté aussi 7 autres femmes qui ont témoigné pour rajouter du poids à la théorie des faits similaires de mise en preuve là, au procès et qui ne réclament rien, sont vraiment là en appui à celles qui ont porté le tout en cours.
Merci beaucoup. À chaque été, j'ai le plaisir de lui parler. Son nom, c'est Émilie Laure. Elle est la merveilleuse porte-parole du MTQ. Bonjour, Émilie.
Allô?
Merci d'être là. À chaque fois que je te parle, je me dis tout le temps, Caroline, plus jeune, là, si j'avais 18-19 ans, je partirais ma compagnie de cônes orange à la grandeur du Québec. J'aurais été milliardaire.
Je sais pas où t'allais, mais...
J'aurais été milliardaire. Bon Dieu qu'il y a des chantiers sur notre circuit routier. On va faire le tour de tous ces chantiers-là avec toi. Mais jusqu'à maintenant, toi, comment ça va, Émilie?
Ça va très bien, bien entendu. On est vraiment là dans le cœur de l'été. Alors, oui, je suis sollicitée pour ces fameuses explications sur les cônes oranges.
Ouais. De un, merci beaucoup parce que j'ai assez chiolé sur le manque d'asphalte sur le pont Pierre-Laporte des dernières semaines que ça a été fait. Je pense que ça a été fait pendant la nuit, mais on voyait le métal au travers de l'asphalte. Ça regardait mal. Est-ce qu'on sait pourquoi les plaques d'asphalte ont levé? Est-ce qu'on a la réponse maintenant?
Ben, en fait, on a moins épais d'asphalte qu'ailleurs, bien évidemment, parce que c'est un pont suspendu, on a des limites de charge, donc faut prendre en considération le nombre de véhicules qui transitent par jour. Alors, on peut pas mettre une épaisseur pareille comme sur les routes de manière générale. Et puis, on avait un petit bout qui avait pas été fait là, lors des travaux en 2021 là, à l'approche du pont lorsqu'on circule en direction sud. L'approche nord, dans le fond, qui n'avait pas été fait, alors il y avait cette partie-là. Mais bien évidemment, là, ce sera de l'asphaltage qu'on devra refaire de manière quand même périodique là, dans ce secteur-là, parce que, bon, comme je disais, on a quand même un saut de véhicules qui est très important, puis on a aussi une limite d'épaisseur d'asphalte qu'on peut étendre.
Les inspecteurs qu'on va passer du MTQ, c'est-tu eux qui s'occupent justement de dire « Ah, ben regarde, telle place, il manque de l'asphalte. » Là, moi, je vois actuellement certains endroits, j'imagine que vous êtes les premiers au courant au MTQ parce que les gens doivent vous appeler, mais il y a certaines roulières qui se sont créées encore là, suite au dégel puis au gel là, du printemps. On a rajouté de l'asphalte à certains endroits, mais les roulières se sont refaites.
On dirait que c'est pire qu'avant aussi. Je ne sais pas si nous qui sommes dans le champ, mais il y a vraiment quelque chose par rapport aux roulières dans la circulation au Québec, là?
Bien, en fait, on a beaucoup de circulation, puis c'est souvent, si je pense au chantier Laurentienne, bien, pas au chantier, mais à l'autoroute Laurentienne, là, on a vraiment des ornières qui sont très importantes, parce que dans ce secteur-là, on sait, on a des véhicules lourds, souvent qui sont sur la voie de droite, là, bien évidemment, et puis là, les voitures, ce qu'ils font, c'est qu'ils dépassent de manière rapide vers la gauche, alors ça gruge un peu, si on veut, la sente, là. Puis il y a évidemment beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais oui, on a des gens qui sont sur le réseau, on a des patrouilleurs, on a aussi des citoyens qui nous appellent, qui font des plaintes là, au Québec 511. Et puis, ce qu'on fait, là, c'est qu'on envoie des gens voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, là, des ingénieurs notamment, là, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour régler certaines situations. Des fois, ça se règle quand même assez facilement. Je pense à un nid de poule, ça s'enlève facilement de la route. Là. Ouais. Mais évidemment, sur l'autoroute Laurentienne, par exemple, il va falloir faire des interventions qui sont davantage importantes.
Ben, les gens du 5-1, j'espère que tu leur amènes des beignes le lundi pour leur souhaiter une bonne semaine. Ça doit être hallucinant des fois à quel point répondre au téléphone, ça doit être...
Payer pour se faire suer.
Ouais, c'est ça. Ça doit être capoté un peu.
Mais d'ailleurs, hein, si on appelle la courtoisie, la politesse et la gentillesse, parce que ces gens-là ne sont pas sur le réseau, hein. C'est pas eux qui réparent les routes, pas eux qui brisent non plus.
Bonne idée de le dire.
On est courtois, gentil, poli.
Exact, exact. Parle-moi des gros chantiers qu'on va avoir, qu'on a actuellement et qu'on va avoir dans les prochains jours, les prochaines semaines.
Bien, je parlais de l'autoroute Laurentienne. Là, on a la réfection du pont d'étagement à la hauteur de la rue de la Fonde. Ça a été amorcé l'année dernière. Et puis, on poursuit cette année là avec la réfection du pont d'étagement en direction nord. Alors, la circulation est déviée. On a annoncé la semaine dernière, d'ailleurs, qu'il allait avoir un radar automobile dans ce secteur-là. Oh. Et je l'ai vu à l'œuvre la semaine dernière. Donc, il est vraiment là dans ce chantier-là là, de manière périodique. Là, en fait, on ne sait jamais quand est-ce que les corps policiers vont décider de le déployer, mais il y avait des corps policiers aussi la semaine passée. Là, j'ai vu la SQ qui était là pour faire du radar. Alors, la vitesse est abaissée. C'est bien important de la respecter. Ensuite de ça, on a le chantier sur Masson-Lornière. Encore une fois, ça a été amorcé l'année dernière. On a fait la réfection de notre pont d'étagement. On est en train de faire l'autre pont d'étagement dans ce secteur-là. Ça se terminera à la fin du mois de décembre et l'année prochaine, il y aura des travaux de parachèvement. Mais je vous dirais que le gros, là, c'est vraiment, c'était l'année passée et c'est cette année. Ouais. Puis on a aussi notre chantier là, à la tête des ponts, bien évidemment. Okay. On a comme trois secteurs à surveiller là, à ce niveau-là.
Émilie?
On a le tunnel pour les autobus sur le boulevard Laurier là, qui devrait être complété en bonne partie à la fin de l'année.
Ouais.
Ensuite de ça, on a la réfection de l'avenue des hôtels et on a un pont d'étagement temporaire sur la 175 qu'on est en train de construire. La circulation devrait il y a été
dévié
aux alentours du
18 juillet. Okay. Ce que tu me dis, je voulais pas te couper, mais sur la capitale, là, ça devrait être réglé en décembre parce que là, il y a énormément de trafic qui se crée là la fin de semaine. Tout le monde est en panique, là, mais ça devrait être réglé fin décembre. Puis après ça, l'an prochain, il va y avoir quelques petits travaux, mais rien de majeur.
Mais c'est du parachèvement. Habituellement, on essaie de faire ça de soir, de nuit, de fin de semaine, faire certaines fermetures. Je pense, par exemple, à rajouter de la signalisation, sur le faire de nuit. Mm-hmm. C'est ce genre de travaux-là qui seront faits l'année prochaine. Mais c'est sûr que le gros du chantier, là, on l'a vu, c'était l'année passée et c'est cette année. Puis d'ailleurs, là, on a beaucoup d'accidents dans ce chantier-là parce que la limite de vitesse n'est pas respectée. On tombe dans du 70. Je le sais que ça va pas vite, mais on abaisse la limite justement parce que la configuration est vraiment particulière. On arrive là, puis les voies sont rétrécies, sont déviées, puis là, les voitures, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent trop vite et les gens, ben, ils mettent les brakes, puis ben, la personne qui suit, ben, rentre dedans.
Mais un peu le genre de chantier comme on vient de sortir le communiqué là, tout juste là, sur la reconstruction des ponts situés sur l'autoroute Félix-Leclerc, donc sur la 40, on dit, bon, fermeture complète de la chaussée mardi-mercredi de 19h à 5h30, puis j'ai dit 21h à 5h30. C'est le genre de choses que vous faites soit fermées en fin de journée. Par contre, avec le Festival d'été de Québec puis ces soirées-là qui s'extensionnent, la grève du RTC, avez-vous repositionné des chantiers ou encore retardé?
Pas vraiment. En fait, on a quand même une cadence assez serrée là, quand on prévoit nos chantiers. C'est certain que la grève du RTC, si on l'avait pas dans nos plans, le festival d'été, on l'a. Habituellement, on essaie de faire certaines fermetures en dehors, justement, de la fameux 10 jours là, du festival d'été. Mais des fois, c'est pas possible parce qu'on peut pas retarder indûment non plus nos échéanciers parce que nous, on sait qu'on a un hiver qui s'en vient, bien malheureusement, ou heureusement que ça se fait selon. Mais on a vraiment une contrainte là, au niveau du temps. Là. Fait qu'il faut vraiment là, rentrer dans notre prévision, là, ce qu'on avait fait là, en début d'année avec nos ingénieurs et les entrepreneurs, bien entendu.
Construction du pont de l'Île d'Orléans, on en est rendu où? Là? Est-ce qu'on est à l'arrêt total présentement?
Ben, en fait, c'est vraiment amorcé ça depuis quelques semaines déjà. Ça se déroule quand même là, de manière très ça va bon train là, si on veut. On a des petites entraves là, d'un côté et de l'autre, mais comme c'est la construction d'un nouveau pont, c'est pas vraiment des entraves comme de la réfection comme on l'a vu dans les dernières années. Là, on avait des entraves ponctuelles, surtout des fermetures de voies du côté de la 138. Mais écoutez, là, c'est vraiment tout sur le Québec 51 là, qu'on peut avoir l'information vraiment en direct là, pour ces fermetures-là qui sont de manière sporadique.
Peux-tu envoyer un courriel aux gars qui font le pont de l'île d'Orléans là, pour qui continue l'autre bord aussi jusqu'à Lévis, s'il vous plaît?
Non, mon courriel ne fonctionne pas vraiment aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est comme un bug. Il y a rien qui sort de ma boîte, mais je vais me mettre une note peut-être pour demain.
Ben oui, ben c'est ça. T'sais, des fois, le courriel envoyé par inadvertance, on a continué l'autre côté et on n'était pas au courant.
Essaie-le, toi, Yannick, on va voir ce qu'ils vont te répondre ou s'ils te répondent, point.
OK. Est-ce qu'il y a fermeture du pont La Porte, fermeture du pont de Québec de prévu dans les prochaines, prochaines semaines?
En fait, le pont de Québec devra se faire fermer certainement les soirs et peut-être une fin de semaine, mais ça reste à déterminer. J'ai pas de date encore. Les fermetures, ça va être beaucoup moins important que ce qu'on a connu l'année passée. Pour l'instant, le pont Pierre-Laporte, mis à part certains travaux d'asphaltage qui se feront de soir de nuit, mais ça n'occasionnera pas la fermeture du pont au grand complet. Là, ce sera seulement qu'une voie ou deux dans chaque direction, puis dépendant d'où on va être rendu là, dans nos travaux. Mais tu sais, il n'y a pas de fermeture majeure comme on l'a connu au courant des dernières années.
Émilie Laure, on t'adore!
Ah! Rappelez-moi d'abord.
Ça doit être rare, hein, de partir ça.
Salut! Ouais. L'excellente Émilie Laure, qui est la porte-parole du MTQ, avec qui on faisait le tour des différents chantiers. Ouais, c'est ça, le pont de l'île d'Orléans. Je veux dire, il n'est pas problématique là, dans le trafic, bien entendu, mais j'avais hâte de...
Quoi?
Il n'est pas problématique, le pont de l'île, là?
Bien, honnêtement, pour passer là à quelques reprises...
Le nouveau
là,
qu'ils sont en train de bâtir?
Bien, pas actuellement, mais okay, ce que ça fait, parce que la zone de construction existe,
ouais,
là, celle sur Capitale, quand tu vas descendre vers, ça mettons, nuit, le fleuve, là, c'est vraiment pas drôle. Puis quand tu parlais de ralentir, moi, je me suis fait prendre. Je vais t'avouer, j'étais un peu coyote puant sur le bord. Fait que quand on me dit ça se rétrécit, je pense toujours qu'il reste deux voies sur trois et non trois.
Ah yeah! Ben!
Et fait, ça prestit de ça, moi, récemment. Et je plaide coupable. Et donc, je parle à tous les coyotes puants qui existent sur l'autoroute en ce moment. C'est un secteur où il faut absolument ralentir. C'est pas beau. Il reste pas grand-chose pour tourner boulevard des Chutes quand vous êtes en direction S pour descendre vers le fleuve, tu sais, ou la grosse courbe.
Ouais,
là,
ouais, ouais.
Par deux fois, il y a un rétrécissement de voie qui tombe à une voie. Donc, t'as de droite et de gauche du monde qui m'envoie « Faut vraiment que je me mette au centre! » Et ça cause beaucoup de risques d'accident.
Ah, voilà. Mais à chaque soir ou chaque jour, début de journée que je suis dans le trafic, là, ces fameux coyotes puants-là,
ouais,
qui essayent de sauver comme 15 secondes, ils savent-tu qu'ils sont une partie du problème dans le trafic?
Ça, c'est un autre type de coyotes puants, mais je pense qu'ils ne le savent pas.
Je vais te donner un exemple que je connais très bien pour le vivre plusieurs fois. Je salue tout le monde qui travaille à Québec puis qui habite sur la rive sud, dans le coin de la Beauce, qui doivent prendre l'autoroute, OK? T'arrives à un moment donné, t'as le choix entre t'en aller vers Québec ou le choix t'en aller vers Montréal. Bien, tous ceux qui s'en vont vers Québec à tous les matins sont tout le temps sur la voie de gauche. Puis des fois, là, c'est du trafic de 5... Tu sais, à Queuleuleu, là, c'est 5, 6, 7, 8 kilomètres. Bien, il y en a qui font semblant qu'ils s'en vont à Montréal. Puis à la dernière seconde, juste avant de prendre la dernière décision à la dernière seconde, donne un coup de volant à gauche. Puis bien, il y en a qui ne les laissent pas passer. Fait que là, les gens qui s'en vont vers Montréal, ils se taponnent, puis il y a un autre goulot qui se crée parce qu'il y a quelqu'un qui a pris une mauvaise décision ou qui voulait être crosseur ce matin-là.
Il y a quand même des gens...
Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de flic à cet endroit-là.
Il y a des gens aussi qui ne comprennent pas que quand, mettons, ta voie va se refermer, il faut que tu te rendes au bout. Il faut que tu le fasses au complet et non, bon, le faire de manière dangereuse puis de faire semblant que tu vas à droite quand tu voulais aller à gauche. C'est pas ça. Quand il y a justement un rétrécissement de ligne, tu es supposé de le finir au complet, le segment où on te demande de te rétrécir, puis après embarquer dans la circulation. Et ça a été prouvé que c'est la seule façon que ça soit fluide et homogène. Mais les gens aussi trop respectueux qui veulent se tasser 2 kilomètres avant nuisent. Fait que tu as différents types de coyotes puants, mais il y a des endroits aussi où on néglige peut-être le fait que ça va passer de 3 à 1 voie. Et moi, j'ai été coyote puant là-dessus. Donc, ce que tu dis, faites pas semblant que vous allez dans une direction quand vous voulez aller dans une autre. Par contre, si vous voyez que ça se rétrécit, rendez-vous au bout du corridor où vous devez vous tasser vers la droite. Là, souvent, c'est de gauche à droite. Vous n'êtes pas des sans-génies, vous n'êtes pas des gens qui manquaient de jugement ou irresponsables. C'est la façon où ça va être le plus fluide. Et si vous êtes dans cette file-là, vous, soyez pas l'agrès qui envoie des fingers en pensant que c'est des stupides qui veulent vous couper. C'est pas le cas dans ce genre d'événement-là.
Puis il y a aussi l'effet du cellulaire. Parce que, tu sais, les gens sont à l'arrêt sur l'autoroute, fait qu'ils ont une tendance à aller vers leur cellulaire. Fait que si les 10 voitures, puis quand je parle avec des chauffeurs de camions, on me dit que des fois, c'est 6 personnes sur 10 qui sont sur leur cellulaire, sur les autoroutes. Vous me faites faire des cauchemars quand vous me racontez ça. Puis, mais t'es à l'arrêt, t'es sur l'autoroute, tu t'en vas sur ton cellulaire pour dire que tu vas être en retard, la file est déjà repartie. Là. Fait que là, toi, t'es en arrière, puis tu fais attendre les autres qui sont derrière, qui sont sur leur cellulaire, qui font attendre les autres qui sont sur leur derrière. Ça n'a pas de bon sens. À tout
garocher ça en arrière de l'auto, de l'habitacle, si vous êtes tout le temps tenté à y aller.
Ouais. Hey, on va parler dans les prochaines minutes de la grève au RTC. Je pense que vous êtes tous au courant. On va recevoir un commerçant qui est effectivement très impacté par la grève au RTC. C'est notre chum Tony Thanos de la galette libanaise. Il va être là pour nous parler de tous ces impacts-là juste avant. On s'en va en musique. Kamakazi, toutes les femmes savent danser sur les zones de boulevard. Si vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021. 88-971-1021.
Elle sourit pour les miroirs et les lentilles.